Votre frère Charles est fatigué ce soir. Il espère qu'il ne va pas trop bafouiller pour le confort de l'écoute. Et en même temps, il sait que même s'il bafouille, le Seigneur est assez grand pour utiliser les mots comme on a demandé pour mettre de la lumière, pour montrer le chemin, pour éclairer, pour fortifier. Voilà. Le frère Charles, il est heureux aussi d'être là avec vous tous. Il se déplace et partout où il va, il trouve des chrétiens. Et il se dit, Dieu a mis des chrétiens sur la terre, comme il a mis des étoiles dans le ciel, pour que la nuit ne soit pas complète. Et par son esprit en nous, eh bien, il y a de la lumière sur cette terre. Et une étoile toute seule n'éclairerait pas beaucoup, mais un ciel étoilé envoie beaucoup de lumière, plus que on l'imaginerait finalement. Alors voilà, il est heureux, il aimerait que vous soyez vous aussi heureux d'être porteur de ce témoignage dans les cœurs, secret et pourtant bien véritable. En tout cas, moi je me réjouis d'être avec vous ce soir. Et je voudrais dire, pour ceux qui peut-être sont en recherche, pour ceux qui ont soif de Dieu, ces choses que je viens de dire ont déjà leur commencement de réalité. Parce que celui qui cherche Dieu, eh bien, il y a des promesses pour lui qui sont très belles. Voilà, celui qui cherche Dieu, il est très près de ceux qui l'ont déjà trouvé. Je vous invite à écouter la lecture de quelques versets dans le psaume 33. Nous avons déjà entendu tout à l'heure le début de ce psaume, et je vais maintenant lire les versets 12 à 19. Psaume 33, les versets 12 à 19. Ces quelques versets nous dévoilent ce qu'on pourrait appeler les deux regards de Dieu. Vous allez le voir, vous allez l'entendre. Il y a un regard de Dieu sur l'ensemble de la création, sur l'ensemble des hommes. Et il y a un regard de Dieu sur son peuple, tout particulièrement. Je trouve cela instructif. Et je lis psaume 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et je souligne ces deux versets qui sont à très peu d'espace de différence, le verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Et le verset 18, qui, je dois dire, m'accompagne tout spécialement pendant cette période, je l'ai presque constamment à ma pensée. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et je voudrais lire maintenant dans la lettre aux Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 1er. Versets 18 à 22. Un passage que vous avez sûrement déjà entendu plusieurs fois, tellement il est important, mais nous l'écoutons encore ce soir. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ne lui ont pas rendu gloire, grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. J'arrête là ma lecture. Ces deux lectures nous ont rappelé des vérités qui devraient être connues et partagées par tout le monde en tout le temps, mais qui sont oubliées, qui sont négligées. Et donc, heureusement que la parole est là pour nous les rappeler, soit pour nous les apprendre si on les ignore, soit pour nous les rappeler si on les a oubliées. Dieu voit son peuple d'un regard tout particulier, avec le regard d'un berger pour ses brebis, attentif, un regard d'amour, comme le cœur d'une maman pour ses enfants. Mais Dieu regarde aussi tous les hommes, sans exception, tous les hommes qu'il a créés, et même ceux qui ne croient pas en Dieu, eh bien, qu'ils le veuillent ou pas, Dieu les voit. Et donc, quelqu'un qui vous dit, moi je ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en Dieu, mais Dieu te regarde. Voilà, pendant ce temps, il te regarde, il te voit, tout le temps, dans tout ce que tu fais. Et donc, ça nous apprend que notre Dieu est un Dieu qui est concerné tout particulièrement par ses enfants, par son peuple. Tout ce qui touche son peuple le touche d'une manière directe, n'est-ce pas ? Ça doit nous rendre très sensibles pour ce qui concerne le peuple de Dieu. « Je suis Jésus que tu persécutes », dit Jésus, alors qu'on persécutait des disciples, des hommes et des femmes comme nous. Mais cela nous apprend, cela nous rappelle que rien de ce qui se passe parmi les hommes ne laisse Dieu indifférent. Donc on ne mélange pas les deux réalités, le peuple de Dieu et les hommes en général, on ne les mélange pas, elles sont distinctes, mais on ne les sépare pas non plus, comme si elles n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Il y a un regard de Dieu pour ceux qui le craignent et qui espèrent dans sa bonté, mais le regard de Dieu est aussi sur tous les hommes, qu'ils le sachent ou qu'ils l'ignorent, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Ce qui a motivé la préparation de ce message, c'est un phénomène sociologique. Bien sûr, le texte biblique est dans la tête aussi, derrière, n'est-ce pas ? Mais ce qui a motivé la préparation de ce message, c'est un phénomène dont vous avez entendu tous parler, qui s'est appelé le phénomène des indignés. Vous vous rappelez, on a entendu parler de cela sur la Plaza del Sol à Madrid. Et il y avait des hommes en grand nombre, en mai 2011, qui sont réunis et on les a appelés les indignés. Et moi, quand j'ai entendu ce mot indigné, j'ai été saisi par ce mot. C'est un mot fort, indigné, quand même. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Pour qu'on soit indigné, il y a quelque chose qui se passe. On n'est pas indigné toutes les cinq minutes, n'est-ce pas ? Même quand on rouspète, on râle, on n'est pas content, on se plaint, on n'est pas forcément indigné. Indigné, c'est un mot très fort, qui m'a presque bousculé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe pour que des hommes s'indignent ? Voilà. Puis ce mouvement a fait tache d'huile un petit peu. Hein. On s'est indigné à Paris, on s'est indigné à Amsterdam, on s'est indigné à Tel Aviv, je crois, à New York, il me semble. Un an après, il y a eu une journée des indignés. Enfin, et on en parle encore de temps en temps. Donc c'est quelque chose qui ne s'est pas apaisé complètement. En Grèce aussi. Voilà. Ma méditation, ce soir, se présente en trois étapes. La première, je vais vous les citer pour vous aider à suivre mon propos. La première étape, il est parfois légitime de s'indigner. Voilà ce que je vais dire. La seconde étape de notre réflexion est celle-ci. L'indignation des indignés, cependant, pose question. Elle est à la fois quelque chose de très beau et quelque chose de gênant dans ce mouvement, qui nous interroge, en tout cas en tant que chrétien, qui m'interroge. Et en troisième lieu, je dirais, en guise de mot d'ordre, d'appel, indignons-nous, mais selon Dieu. Voilà, indignons-nous quand il le faut, n'est-ce pas, mais à la manière de Dieu, la manière que Dieu agrée. Alors, voilà, le premier point est celui-ci, il est quelquefois légitime de s'indigner. Vous savez, on a beaucoup dit que Dieu était amour, enfin on l'a dit quelquefois de manière légitime, on l'a dit quelquefois de manière un peu légère, un peu superficielle, comme si ça allait tout régler, Dieu est amour. Voilà. Et on a oublié que tout en étant rempli d'amour, Dieu était aussi un Dieu saint, un Dieu qui s'irritait, un Dieu sensible, un Dieu qui observe ce qui se passe, n'est-ce pas, comme le dit le psaume 23. Et rien ne nous permet de croire que l'amour de Dieu correspondrait à une forme d'indifférence. Nous n'avons pas un Dieu indifférent. Et nous avons oublié peut-être que tout en étant nous-mêmes appelés à aimer, eh bien, le fait que nous ne devons pas être indifférents peut quelquefois nous conduire nous-mêmes à être irrités ou attristés. Et pourquoi pas d'une manière forte. Curieusement, dans l'excellente traduction seconde, me semble-t-il, il y a un verset qui est traduit de manière un peu approximative. Chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, la traduction dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » C'est écrit comme cela. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Et le texte grec dit autrement. Il y a quelques traductions qui ont rendu autrement, notamment la traduction d'Arbi, qui dit « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. » C'est étonnant cela, hein? Et ça a tellement troublé le traducteur qu'il a dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Un peu plus loin, il est dit aussi que toute colère et toute clameur disparaissent du milieu de vous. Donc on comprend que le texte est porteur d'une difficulté, quoi. À la fois, il est dit que la colère n'habite pas en vous, qu'elle ne demeure pas en vous. Ne soyez pas animés par la colère. Le texte dit cela. Et un peu plus haut, eh bien, le texte grec dit « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Il me semble qu'on peut comprendre le message de l'apôtre ainsi. Il est quelquefois nécessaire de se mettre en colère. Peut-être même que certaines fois, ne pas se mettre en colère serait une faute. Mais si vous êtes conduit à vous mettre en colère, eh bien que cette colère ne s'installe pas, qu'elle ne s'inscrive pas, qu'elle ne dure pas, ça ce n'est pas bon, parce que ça donne accès au diable. Voilà. On pourrait presque faire le parallèle avec l'alcool, n'est-ce pas? Comme il est dit, voilà, ne vous enivrez pas de vin, ne buvez pas de manière immodérée, mais voilà. Un peu de vin, c'est bien, mais que ça ne remplace pas la joie de l'esprit, la force de l'esprit. Voilà. Mettez-vous en colère, dit Paul dans ce passage, mais que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je vais illustrer mon propos par un exemple, une anecdote qu'on m'a rapportée il n'y a pas très longtemps. En Cévennes, il y a des bergers et des bergères. Déjà, les Cévenols sont déjà un peu rudes, hein. Alors les bergers Cévenols, je vous dis pas, hein. Ils sont vraiment, c'est des rustres, voilà, ce sont des rustres, des gens qui connaissent tout sur les brebis et très peu de choses en dehors des brebis et qui vivent à frontière des zones inhabitables tout l'été, dans la transhumance, vers le Mont-Aigoual, sur les Costes, etc. Et un jour, une chrétienne, bergère elle-même, va visiter une famille de bergers. Et dans cette famille de bergers, il y avait un petit garçon qui devait avoir 3 ou 4 ans. Et cette chrétienne arrive là, dans la cour de la ferme, je ne sais exactement, et elle survient là, et le petit enfant de berger dit à cette femme qui arrive, qui ne connaît pas, « Je m'en fous de toi. » Il paraît qu'il a dit avec des mots même un peu moins corrects que ça. Alors elle le regarde un peu surprise, elle venait voir la maman, et l'enfant, avec aplomb, il la regarde et lui dit « Je m'en fous de toi. » Alors, cette bergère, elle prend l'enfant par le col, comme ça, elle le soulève, et elle lui dit « si tu dis ça encore une fois, j'enlève ton pantalon et je te donne une correction dont tu te rappelleras toute ta vie. » Et puis elle le pose. Il y avait la maman à côté. Et l'enfant va jouer un peu plus loin. Un petit moment après, alors que cette dame parlait avec la maman du petit garçon, le petit garçon appelle la dame et lui dit « Tu peux venir m'aider à ranger mon camion, là, que j'arrive pas à mettre comme il faut ?» Et pendant que cette dame s'approche, l'enfant lui dit « Tu sais, tu es gentille. » C'est fort, hein ? Ça nous instruit beaucoup, cet exemple-là, je trouve. Qui nous montre que non seulement la colère est quelquefois appropriée, mais elle est secourable. Elle est secourable. Elle rend service. Et l'enfant qui n'a pas fait d'études de psychologie ou de pédagogie, il a reconnu. Il a trouvé le moyen de lui dire merci. J'étais sur un mauvais chemin et tu m'as arrêté là. Merci. Et moi je suggère, hein, parce que je n'ai pas la connaissance infinie de tout ce qui se passe, je suggère que cette colère-là reflétait la colère de Dieu, l'irritation de Dieu. Et nous sommes appelés en tant que chrétiens à refléter la pensée de Dieu dans nos actions et dans nos paroles. Et quelquefois, la colère peut refléter la pensée de Dieu. Voilà. Dieu, parfois, est lui-même irrité ou attristé. Il est patient, il est lent à la colère, mais quelquefois, la colère de Dieu se révèle, se manifeste. Elle est contenue, mais elle est là, et quelquefois, elle se révèle de diverses manières. Elle dit stop. Ça peut arriver à l'échelle d'un individu, ça peut arriver à l'échelle d'une collectivité. Voilà. La patience de Dieu, c'est très grande, n'est-ce pas, qui explique, on l'a dit hier soir, que beaucoup d'injustices et beaucoup de maux perdurent. On aimerait que Dieu agisse tout de suite. Non, il prend patience. Mais cette patience ne nie pas qu'il est attentif et qu'il est irrité et qu'il est attristé et quelquefois qu'il est profondément en colère contre ce qui se passe. Il y aura un jour un jugement qui sera rendu sur toute chose qui se passe sur cette terre. Voici, l'œil de l'Éternel est sur tous les habitants de la terre. Il est attentif à toutes leurs actions. Quelquefois on nous dit, oui mais comme chrétien, on ne peut pas gérer les affaires de la société. C'est vrai. Mais nous aussi on voit ce qui se passe, hein, comme Dieu. Et si une chose est mauvaise pour les chrétiens, elle n'est pas bonne pour les autres. Et donc, il nous faut le dire. On est patient, on est doux, mais on n'est pas indifférent. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Quelquefois, le cœur de Dieu est indigné. Jésus le dit, par exemple, dans la parabole des talents. Vous vous rappelez la parabole des talents? C'est surprenant, hein? Celui qui avait reçu un talent et qui le cache, il dit, voilà maître, le talent que tu m'as confié, j'avais peur de toi, tu me l'as donné, je te le rends. Et le maître dit, serviteur méchant et paresseux, prenez-lui le talent, donnez-le à celui qui en a 10, et celui-là, jetez-le dehors. Et on sent que le cœur de Dieu est bousculé par cette situation. Voilà. Et si le cœur de Dieu est bousculé, pourquoi ne serions-nous pas bousculés, nous aussi? Quand la justice est piétinée, quand on s'incline devant des idoles, quand on méprise l'alliance, quand on écrase les petits, quand on saccage la planète, quand le peuple de Dieu est négligent par rapport à ce qu'il a reçu. Vous rappelez-vous cette tristesse de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, quand Dieu dit « J'avais sur un coteau une vigne, j'en ai pris soin, je l'ai arrosée, j'ai mis une clôture et j'ai espéré qu'elle produirait de bons fruits, mais elle en a produit du mauvais. Que ferais-je à ma vigne? J'abattrai la clôture et elle sera piétinée. » Quelle tristesse dans le cœur de Dieu et quelle irritation, quelle indignation. Le second point de mon message se rapporte donc à ce mouvement des indignés et voilà ce que j'exprime, ce que je partage devant vous ce soir, l'indignation des indignés, elle est peut-être juste jusqu'à un certain point. Quelquefois il faut s'indigner, quelquefois il faut dire je comprends pas, quelquefois il faut dire c'est plus possible, stop maintenant. Mais l'indignation populaire, sociale des indignés pose problème cependant à l'observateur chrétien, me semble-t-il. Évidemment, il y avait en Espagne, et puis en Grèce, et puis à Paris, et puis partout, des gens qui vivent de réelles difficultés pour se loger, pour faire des études, pour trouver du travail. Mais cette génération qui s'indigne est une génération qui a été élevée avec l'idée que le bonheur était un dû. Et que quelqu'un, l'État en l'occurrence, allait pourvoir à tous les besoins, et que c'était là un impératif, et que c'était donc un droit impératif pour cette génération de réclamer ce dont elle avait besoin, que d'autres avaient peut-être et qu'elle n'avait pas. Cette vision du monde, cette mentalité, est assez éloignée de ce que nous dit l'Écriture. Jamais nous voyons dans l'Écriture que l'État peut remplacer l'action de Dieu, même si l'État est placé avec un mandat et est appelé aussi serviteur de Dieu. Cependant, l'État qui doit répondre à tous les besoins d'une manière automatique et généreuse, c'est une pensée qui surgit quand Dieu a disparu de l'horizon, de l'environnement. Il y avait certes en Espagne, peut-être à Athènes, et peut-être à Paris, et à Amsterdam, et à Tel Aviv, et à New York, de l'incompétence chez certains responsables politiques, de la corruption. Ce sont des choses graves, qu'il ne faut pas laisser faire sans rien dire. Mais il y avait aussi parmi tous ces peuples une part d'utopie, une part de rêve. Et ces gens ont considéré que leurs droits étaient bafoués, et qu'une forme d'anarchie était légitime peut-être, et que si on donnait le pouvoir au peuple, eh bien maintenant ça serait la justice répartie partout et qu'il n'y aurait plus de problème. Et ce genre de rêve, ce genre d'utopie est également bien éloigné de la vision biblique. Il y a encore une raison pour laquelle je trouve ce mouvement crée problème, c'est que cette indignation populaire, elle est sélective. Elle exprime son mécontentement par rapport au problème du logement des étudiants, ou le manque de travail, ou des prestations insuffisantes, je ne sais quoi encore, mais elle ne dit rien sur d'autres problèmes très graves, pas un mot sur l'avortement. L'Espagne est le pays où le taux de fécondité est le plus faible du monde. Mais ça n'a pas touché cette génération qui a rouspété là. En France, il y a 200 000 avortements par an. Personne ne trouve ça scandaleux. On s'y habitue. On a oublié qu'au même moment où l'interruption de grossesse était banalisée, eh bien, on découvrait que l'ADN définit la personne dès sa conception. Mais ce n'est plus un sujet d'indignation. On s'y habitue. L'évangile des droits de l'homme donne une définition de la dignité qui est tournée vers le respect des droits et donc vers la revendication. Et là encore, je pense, on est très loin de l'esprit de la révélation biblique. Et je pense que nous devons nous-mêmes prendre garde parce que nous vivons au milieu de cette génération-là. N'est-ce pas? Elle infiltre par mille interstices, mille voies dans nos maisons, dans les salles de classe, dans nos salons, dans les chansons qu'on entend, etc. Et elle nous connecte bien plus qu'on le croit. Et la Bible nous parle peu des droits de l'homme. Il y a des droits. De respect, de liberté, l'homme a des droits à faire valoir. Et on peut dire aussi, mais j'ai besoin de cela, et j'attends qu'on prenne mon besoin en considération. Mais quand on ouvre la Bible, on voit que l'homme ne mérite même pas l'air qu'il respire. Il devrait dire merci pour ce qu'il a. Qu'il ait beaucoup ou qu'il ait peu, il devrait dire merci pour ce qu'il a. Et donc ce mécontentement, cette plainte, ce syndrome de victimisation, comme on disait hier soir, finit par devenir une prison de laquelle il est difficile à sortir et qui ne sert pas toujours des causes justes. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Le troisième point de ce message, je l'ai appelé donc indignons-nous, mais à la manière de Dieu. Indignons-nous, mais selon Dieu. Et donc je crois que la question, c'est pas est-ce qu'il faut s'indigner ou est-ce qu'il ne faut pas s'indigner en tant que chrétien, mais est-ce qu'il y a une manière juste de s'indigner et est-ce qu'il y a une manière injuste de s'indigner? Quand faut-il s'indigner? Voilà. Savons-nous faire la différence entre une indignation qui est le reflet de l'indignation de Dieu et une indignation qui est le reflet d'une révolte ou d'une utopie ou d'une déception? Quand Paul dit aux Philippiens « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ », il parle de la mentalité, du regard qui était en Christ. Est-ce que nous pouvons imaginer à quel point nous sommes imprégnés par la mentalité qui nous entoure? Par ce qui marque notre intelligence, notre sensibilité, à quel point nous nous habituons, par exemple. Moi, j'ai grandi sans télévision, mais je pense à une de mes belles-sœurs, quand elle a acheté la télévision, au début, elle éteignait la télé quand il fallait l'éteindre. Et mon beau-père, quand il vient pour un week-end chez ma belle-sœur et mon beau-frère, de temps en temps, il dit « Mais vous n'éteignez pas ?» Vous n'éteignez pas, là? Il dit ça, lui. Ils n'ont plus à partir chez lui. Et alors, il dit, ben, avant, on aurait éteint, maintenant, on n'éteint plus. On s'est habitué. On s'habitue. Et donc, quelquefois, peut-être, il faudrait parler, et on dit rien. Et quelquefois, il faudrait patienter, et on s'énerve. Est-ce qu'on reflète la pensée de Dieu? Est-ce qu'on est, comme cela, les témoins fidèles de ce que Dieu a placé au-dedans de notre cœur. Alors vous savez, depuis quelques années, depuis quelques mois surtout, quelques semaines surtout, on parle de l'homosexualité, elle s'affiche maintenant, déjà depuis quelques temps dans les films, les romans, un petit peu partout, sur les affiches, sans vergogne, avec l'intention d'imposer un modèle, voilà, banaliser les choses. Bientôt, les manuels scolaires s'évertueront à présenter les deux possibilités comme étant égales l'une à l'autre, pour que nos enfants ne trouvent rien à redire. Et celui qui trouverait à redire, bientôt, sera assimilé à un raciste, à un rétrograde et à un méchant. Que feront les disciples de Jésus à ce moment-là? J'ai pas la réponse, hein, mais je pose la question. Que feront les disciples de Jésus quand on leur dira « Il faut plus parler de cette question, elle est réglée maintenant » Qu'est-ce qu'ils feront les disciples de Jésus? Et je me souviens, comme vous, que pendant tout le XXe siècle, en France, on a intimé l'ordre de ne pas prononcer le nom de Dieu dans la rue, dans l'école. Eh bien, on n'a pas prononcé le nom de Dieu. La rue s'est vidée de la mention de Dieu. Et les écoles, et les bureaux, et les entreprises, et je ne dis pas qu'il faut parler de Dieu tout le temps, n'est-ce pas? Je ne dis pas ça du tout. Mais de là à dire c'est interdit d'en parler, mais la loi ne le dit même pas. La loi ne le dit pas, mais des gens très sur deux nous ont dit on n'en parle pas. Et on a dit ben, de quoi on n'en parle pas? Il ne fallait pas en parler. Il ne fallait pas en parler tout le temps, mais est-ce que certaines fois il ne fallait pas en parler? Voilà. Est-ce que nous pouvons comprendre quand il faut se taire et quand il faut parler. Quand Dieu nous demande de faire une chose qui correspond à sa pensée, ou quand Dieu nous dit c'est pas le moment, est-ce que nous pouvons comprendre cela? Ça serait fort souhaitable. Est-ce que nous pouvons, je donne un exemple, est-ce que nous pouvons apprendre à nos enfants, dans la cour de l'école, à dire oui, 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 là, non? Voyez? Pas non tout le temps. Voilà. Si on dit c'est l'heure d'aller en classe, il faut dire oui. Si on dit sortez vos cahiers, oui. Si on dit j'adore le chocolat, non. On n'adore que Dieu. Vous le savez, il y a des enfants qui ont dit ça à leurs institutrices. Hein? Madame, on n'adore que Dieu. Et tu avais raison de le dire, n'empêche. C'est pas grave, n'est-ce pas? Mais si on ne le dit pas, et à force de plus rien dire, n'est-ce pas? Et dans la cour, quand il y a des jeux, ou quand on se moque, ou quand on raconte des blagues, ou quand on embête quelqu'un. Oui, 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 là, non, là, plus. Là, là, non. Mais enfin, allez, encore un peu, non, là, non. Mais celui qui fait ça, il sauve son âme et il adresse un appel très grand aux autres, n'est-ce pas? Même si sur le moment, il ne l'écoute pas, y compris un enfant devant un adulte. Puisse le peuple de Dieu savoir quand il faut dire oui, 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 et quand il faut dire non. Ni trop tôt, ni trop tard. Ni avec énervement, avec impulsivité, ni avec timidité et avec crainte, de manière juste. Puissions-nous avoir en nous la patience qui est dans le cœur de Dieu, tout simplement. Et puissions-nous être émus quand Dieu est ému. Vous vous rappelez ce que dit l'Épître aux Hébreux de Lot, ce juste tourmentait son âme nuit et jour en considérant ce qui se passait autour de lui. Et pourtant, c'était juste l'histoire de Lot. Hein. Quand on lit dans la Genèse, Lot, il est sauvé de justesse, quoi. Encore un peu, il penchait, on a l'impression qu'il penchait du côté des méchants. Les anges lui disent plus que 5 minutes et c'est trop tard, viens vite. Il nous semble que Lot était sauvé de justesse. Et pourtant l'Épître aux Hébreux nous dit, ce juste tourmentait son âme jour et nuit quand il considérait ce qui se passait autour de lui. Et un chrétien a des souffrances qu'un non-chrétien n'a pas. Parce qu'il y a en lui un esprit qui est sensible au mal, à l'injustice, à la souffrance des hommes, des animaux et de la planète tout entière. La création tout entière souffre et soupire, dit la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a de la place? Et je pense qu'il peut y avoir des vocations qui soient différentes entre nous. Je pense que tous les chrétiens ne vont pas porter cette sensibilité à un même niveau. Mais je pense que certains chrétiens vont la porter plus que d'autres. Et Dieu répartit sa grâce différemment, n'est-ce pas? On n'a pas à être tous identiques, mais quand même tous accessibles à cela. Pareil pour l'irritation. Voilà. Et pareil pour la patience, bien sûr. Si Dieu est patient, on peut bien être patient aussi, frères et sœurs. Mais ce n'est pas ou l'un ou l'autre. Voilà. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre. Voilà. Savoir s'indigner de soi-même. Savoir être soumis aux autorités, mais savoir résister s'il le faut. Et peut-être qu'il y aura des chrétiens en prison dans quelques temps. Non pas parce qu'ils auront mal agi, mais parce qu'ils auront été courageux. Peut-être. Pas souhaitable, mais peut-être. Voilà. Et souhaitable que les chrétiens soient imprégnés par l'Écriture et sensibles à l'Esprit pour comprendre quand il faut se taire, quand il faut parler, quand il faut aller de l'avant, quand il faut se retirer, quand il faut se réjouir, quand il faut pleurer, quand il faut patienter, quand il faut dire maintenant ça suffit. D'abord dans notre propre vie, dans notre maison, dans l'église et dans la cité. Et pour conclure, je dirais ceci, voilà, en un sens, le chrétien est moins indigné que les autres hommes parce qu'il a un esprit d'apaisement. Vous voyez, il y avait un autre berger, c'est un professeur qui m'a rapporté ça un jour à la faculté. Chaque matin, quand il se levait, il disait « Seigneur, ton serviteur se lève. » Et après, il disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il mangerait à midi, mais il disait cela. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Un clochard peut dire ça s'il connaît Dieu. « Je ne manquerai de rien. » Voilà. Cet esprit de rassasiement et l'espérance, n'est-ce pas, et l'amour de Dieu guérissent le chrétien de toute forme d'indignation déplacée. D'amertume, de paroles vives, de réactions impulsives. Ça n'a pas de place parmi nous. Le chrétien est moins indigné parce qu'il vit de la grâce. Et ses propres intérêts ne sont pas ce qui motive son activité en premier lieu. Voilà. Ce qu'on me fait, Dieu le sait, Dieu s'occupe de moi. J'ai d'autres soucis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est beau, n'est-ce pas? Mais en un sens, le chrétien n'est plus indigné que les autres. Parce que les autres voient des choses incroyables et ils l'ont vu 100 fois, donc ça fait 101 fois. C'est pas grave, on est au 21e siècle quand même. Voilà. Et puis on l'a vu à la télé, puis je sais pas quoi encore, il y a une loi qui est passée, donc c'est que c'est pas grave, etc. Donc, voilà. Eh bien, le chrétien est plus indigné que les autres parce qu'il est plus sensible. Il a une référence dans la personne de Jésus qui l'instruit autrement. Voilà. Et là où les autres, ça ne les touche pas, le chrétien est touché. Et je dirais, pour conclure vraiment, alors le chrétien est indigné, mais autrement. Et ça, c'est vrai pour tout. Ce raisonnement que j'ai présenté devant vous, on pourrait le dire pour tout, n'est-ce pas? Pour la tristesse, pour la joie, pour le courage. Le chrétien, il peut reconnaître dans tout ce qui se fait une part de juste, mais après il dira, mais là, ce n'est plus la manière véritable. Et donc, moi aussi, je peux vivre comme cela, mais j'ai une référence différente. Le chrétien peut s'indigner aussi, mais autrement. Il s'indigne autrement. Il s'indigne avec humilité, parce qu'il est conscient de sa propre faiblesse. Ça dicte une manière de s'indigner, n'est-ce pas? Il s'indigne avec reconnaissance, parce qu'il sait que Dieu est juste, et qu'une justice sera manifestée en son temps. Et il s'irrite, quand il s'irrite, avec espérance, car il attend de nouveaux cieux, et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Que nous puissions avoir dans notre cœur le reflet de ce que vit le cœur de Dieu, et que nous puissions le vivre en étant à son écoute, comme des disciples, chaque jour. Amen.